travaillez dans l'audiovisuel, alors ce podcast est fait pour vous.
Tu ne sais pas ce que tu veux.
Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot.
Je suis Jonathan Elalouf et vous écoutez Au Générique, le podcast qui parle de tous les métiers de la création audiovisuelle.
Si la production vous dit non, vous dites le metteur en scène a dit oui.
Toutes les trois semaines, je donne la parole à un ou une professionnelle pour vous faire découvrir de manière authentique son parcours, ses anecdotes et son métier.
On a fait quatre courts-métrages ensemble et un clip. On rencontre Netflix. Netflix me dit c'est pas mal ton truc. Et au moment où elle me dit ok c'est bon, t'arrives avec le couteau entre les dents pour travailler et faire ton film. Parce que tu te dis, putain, c'est maman.
Ce podcast vous est présenté par Lightyshare, plateforme de location de matériel audiovisuel. Où que vous soyez, retrouvez tous les équipements dont vous avez besoin sur lightyshare.com.
En termes de chiffres de l'exploitation, à 28 jours, on avait atteint, à l'époque, 37 millions de comptes visionnés. Ce qui a changé, c'est que les gens répondaient au téléphone quand j'appelais maman. C'est le vrai changement que j'ai vu, c'est ça.
Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela nous aide énormément. Bonne écoute.
Moteur ! Oh putain, moteur !
Salut Rémi.
Salut Jonathan.
Ça me fait super plaisir que tu sois là.
Merci de l'invitation.
Ça fait un moment en plus qu'on parle de toi, puisqu'on a reçu sur le podcast il y a quelques mois Mélissa Hummler qui joue dans l'un de tes films, Balles perdues.
Absolument.
Avec qui du coup on a pu déjà un petit peu échanger sur tes projets. Toi tu es producteur et tu as fondé ta société de production InoxyFilm en 2012. Mais tu formes surtout depuis plus de 35 ans un duo, une bromance même pour reprendre ces mots, avec Guillaume Pierret. De ton côté, la production et du sien, la réalisation, c'est avec lui que tout a commencé. Des courts-métrages d'action amateur où l'on te voit prendre, mais aussi donner des coups, jusqu'au premier long-métrage Balles perdues, diffusé sur le géant du streaming Netflix. Le chemin parcouru est assez incroyable. Et depuis 2005 et le premier court-métrage, Le Dernier Psaume, si je le prononce bien, jusqu'à aujourd'hui, il y a une constante, c'est les films d'action. Tu peux me dire un petit peu d'où ça vient ?
Bon, déjà, tu as dit 2005, donc c'est vrai qu'on prend une petite claque parce que ça fait un petit moment qu'on essayait en tout cas de faire du film d'action, puisqu'on est passionné de ça avec Guillaume depuis notre enfance. Tu as dit 35 ans, c'est 38 malheureusement maintenant, puisque ça filme. Mais c'est vrai qu'avec Guillaume, on a été mis côte à côte depuis non un an et on a été biberonné au même film d'action, au même film d'aventure depuis qu'on est petit devant le même écran. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est un peu imprégné. Et quand on a décidé de faire des courts-métrages en 2005, du coup, Le Dernier Psaume, quand tu es dans le sud-ouest et que tu as plein d'envie et tu te dis, viens, on fait un film. Bon, on a trouvé une caméra, on a trouvé des copains. Les trucs qu'on aimait, c'était la bagarre dans ce qu'on savait faire. Et puis, on s'est mis à filmer des scènes de combat, à faire des essais de plein de trucs. Et ça a commencé comme ça. Ouais.
Donc, pas d'école de cinéma, pas de trucs comme ça. C'est juste l'envie de faire un film où ça castagne et toi, face caméra.
Ouais, c'est exactement ça. Alors, le face caméra, c'est parce que dans le sud... quand je dis dans le sud, à chaque fois, c'est pas du tout... je renie rien du tout, mais c'est vrai qu'on avait... On n'avait pas de notion d'acteur, de doublure, de technicien. On voulait filmer de la bagarre. Donc, on pratiquait les arts martiaux, Guillaume et moi d'ailleurs. Mais Guillaume avait vraiment une vraie ambition de metteur en scène, de raconter des choses, de montrer des choses. Et puis, j'ai dit, viens, je me mets devant et on fait la bagarre. Donc, et ça s'est fait comme ça. Hein. On a vraiment fait comme ça. Pas d'école de cinéma, puisqu'on ne s'est jamais dit, viens, on apprend à faire. Tout de suite, on s'est jeté sur les making-of. On a dit, tiens, apparemment, il faut une caméra pour filmer. Il faut un micro pour enregistrer. Et puis, en avant, quoi.
Allons-y, quoi.
Ouais.
La mini-DV, et puis c'est parti, quoi.
Exactement, la mini-DV, absolument. Ouais.
C'est la belle époque. Toi, à ce moment-là, donc, t'es face caméra. On te voit dans plein de making-of. C'est assez marrant, d'ailleurs, de regarder ça avec le recul, ouais. Je pense, de ta carrière aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a fait passer côté production ?
En fait, j'ai toujours été derrière, côté production. Et on m'a mis devant en disant « viens, il faut faire la bagarre ». Et Guillaume, si on commence à travailler à 2h du matin et qu'il faut tenir jusqu'à 2h du matin, 2 jours après, on s'est dit « on peut demander ça à personne d'autre qu'à nous-mêmes ». Donc, ça s'est fait comme ça. Il n'y avait pas d'envie particulière d'être comédien ou de besoin à refouler, pas du tout. C'était d'ailleurs un enfer pour lui de me filmer puisque je n'ai pas une grande confiance en moi. Et donc, j'éclatais de rire dès qu'il disait « action ». Évidemment, il ne fallait pas, donc ça s'est fait comme ça.
Ouais, je crois qu'il le dit dans un des making-of de l'un des courts-métrages où on t'entend rigoler et lui dire que c'est l'enfer, justement, à cause de ça.
Sûr, ouais,
ou c'est sur Twitter, je ne sais plus où est-ce qu'il a écrit ça.
Je n'ai pas regardé, donc mais... c'est pas du tout impossible.
Vous avez réalisé combien de courts-métrages ensemble ?
On a fait 4 courts-métrages ensemble et un clip.
Ok.
Avec le dernier court-métrage qui s'appelle Matriarche, où enfin je n'étais pas devant la caméra, mais j'avais mon plein rôle derrière. On a embauché, choisi des vrais comédiens et il a pu raconter une vraie histoire avec pour la première fois des dialogues. Et ça a été notre quatrième et dernier court-métrage. En vrai, on en a fait 6, mais on en a abandonné 2.
Il y en a 2 qui sont enterrés.
Exactement, ouais. On a fait 6 tournages et sur les 2 autres tournages, les 2 autres court-métrages qu'on faisait, quand on s'est retrouvé devant les images en montage, on s'est dit, ça raconte rien, c'est pas assez bien, viens, on arrête.
Donc, okay.
Ça, c'est nos plus grandes erreurs, c'est d'avoir dépensé une énergie folle à mettre en place des tournages colossaux à notre époque, à notre échelle, pour ensuite se dire, nah, c'est pas bien.
Sans viens, aller au bout, quoi.
Exactement, ça, c'était, ouais. Ouais, c'est arrivé 2 fois.
Là, tu regrettes de ne pas avoir poussé le truc au bout, même si c'était pour faire quelque chose de pas terrible, non, mais au moins de l'aboutir ou...
Non, on s'est arrêté trop tard, puisqu'on avait quand même tourné beaucoup d'images, mais il valait mieux s'arrêter.
Ok. Oh, oui, d'accord.
On s'est dit non, mais stop. Voilà, viens, on fait autre chose. Voilà.
Et alors, comment ça se passait? Parce que quand on regarde ces premiers courts-métrages, on voit que déjà à ce moment-là, ça canarde, il y a des armes, ça se bastonne vraiment et tout. Donc, pour les bastons, tu m'as dit, vous faisiez tous les deux des arts martiaux.
Ouais.
Mais pour le côté flingue, ça tire dans tous les sens, projection de sang. Et comment tu fais pour trouver les moyens de faire ça?
Bah, quand tu comprends que le cinéma et les scènes d'action, c'est de la triche, on frappe pas les gens pour de vrai. On tire pas sur les gens pour de vrai, eh ben tu comprends un peu la mécanisme du montage, du champ contre champ, des effets dans le plan, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on s'est dit, ben viens, on teste. Le premier film à effets spéciaux, si on peut dire, au-delà d'avoir créé une sorte de faux spectre dans le dernier psaume, qui est un édredon avec une cape dessus, bravo, c'est Indemne. Et Indemne, c'est effectivement 2 mecs dans un salon qui manipulent des armes à feu, des fusils de chasse. Il y a un coup qui part tout seul et ensuite l'autre veut tuer celui qui reste pour qu'il n'y ait plus de témoins. On s'est dit, il y a un fusil, il y a un impact, viens, on fait avec des pétards. Donc on faisait champ contre champ. On faisait péter un pétard et ensuite on filmait le mec qui tire et tu rajoutes un peu de son, un peu de fumée, un peu d'image, un peu d'inventivité et les plans de Guillaume. Et t'obtiens un court-métrage qui tient la route ou des scènes d'action qui commencent à tenir la route, alors que vraiment, c'est fait avec 3 bouts de ficelle.
Ouais, c'est les débuts, c'est système D, quoi.
C'est système D, t'essayes de faire passer le bon sens en premier, et surtout, tu te nourris des films que t'as vus, t'essayes de pas les plagier, même si, évidemment, au tout début, tu fais ton expérience, t'as pas encore ton identité, donc il y a un peu un côté inspiration directe. Parfois, c'est exactement les mêmes plans que dans les films, mais en 100 fois moins bien, mais tant pis, il faut bien commencer quelque part et se faire la main. Mais tu fais marcher le bon sens et puis tu testes, en fait. Tu testes, tu tentes. Ouais, c'est comme ça qu'on a fonctionné depuis le début.
Vous avez fait ces différents courts-métrages. Matriarche, qui est le dernier et qui est du coup l'un des plus aboutis, je pense qu'on peut dire. On sent qu'il y a un vrai gap entre celui-là et ceux d'avant. Je pense dans les moyens déployés, etc. Tu te dis que c'est justement l'un où il y a des dialogues pour la première fois.
Ouais.
En termes d'effets spéciaux, ça monte aussi en gamme. On a un mec qui est coupé en 2 à un moment sur un tir de fusil à pompe. Vrai,
en vrai, pour faire Matriarche, même pour faire Surrender, celui qu'on avait fait avant, où tu as aussi une poursuite en voiture qui avait été faite par... On s'était associé avec des cascadeurs qui s'appelaient Carnage Productions et qui sont des gens absolument fantastiques et qui nous ont suivis un peu dans notre délire. En vrai, tu fais rien tout seul. Donc, et tu prends les choses, tu fais la liste de ce dont tu as vraiment besoin. Tu dis, tiens, il y a une scène où il y a une voiture qui tape une autre voiture dans une rue qui est croisée par une autre rue. Tu fais une liste et à la fin, tu dis, la rue, il y en a là, à qui il faut demander. Et en fait, tu fais tes armes comme ça. Il faut passer par la liste de ce dont tu as besoin. Et ensuite, tu cherches, ça c'est mon rôle, tu cherches comment trouver des solutions. Donc, quand on fait Matriarche, je suis allé voir la mairie de Sète, là où on a tourné, en disant bonjour, on est des jeunes cinéastes, on a envie de faire un film d'action, on a besoin de bloquer la rue. Les mecs, ils disent non. Et ensuite, ils disent comment ça bloquer la rue? Et en fait, on est tombé sur des gens qui posent des questions. Que les réponses leur plaisent ou non, au moins, ils posent des questions. Ouais. Ils s'intéressent. Et si tu arrives avec des solutions et pas juste je veux la rue, tu dis j'aimerais ce tronçon de telle date à telle date, de telle rue à telle rue, de telle heure à telle heure. En fait, ils se rendent compte que tu as pensé ton truc et ensuite, ils te demandent des garanties, une assurance, et ainsi de suite. Donc, mais ça a marché. En fait, tu fais un court-métrage exactement comme tu fais un long-métrage. Voilà.
Ok. Et alors, justement, sur ce projet-là, tu te souviens une fourchette, grosso modo, le budget que vous aviez pour faire ça?
Ouais, quand on a tourné les scènes d'action de Matriarche, c'est-à-dire les voitures, le blocage, toute la fabrication des scènes d'action, on était à peu près à 8 ou 9 000 euros. Ensuite, on a rencontré une boîte de production qui s'appelait SK Production sur Paris. Et parce qu'après Matriarche, nous, on s'est dit, viens, on va à Paris. On veut faire du cinéma. Là, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. Viens, on s'installe à Paris et ensuite, on va conquérir le monde. Et puis, évidemment, ça, c'est la première ambition. Déjà, tu n'arrives pas à Paris, tu arrives à Bobigny. Et puis, et le monde, ben, en fait, tu as un gros accent du sud-ouest. Les gens sont là, oh là, mais qu'est-ce qu'ils font là? Donc, tu prends pas mal de portes dans la gueule. Et quand on a rencontré cette jeune boîte de production qui faisait des courts-métrages, eux, ils ont dit, venez, on complète les images. Nous, on va mettre un peu d'argent. On va avoir un décor, on va avoir des comédiens et comme ça, on fera un produit fini. Et du coup, Matriarche arrive à un budget, je ne voudrais pas dire de conneries, mais ils ont dû rajouter à peu près la même chose que nous. On a dû arriver à un total de entre 15 et 18 000 euros pour fabriquer Matriarche. Et encore, j'espère ne pas me tromper, je ne me rappelle vraiment plus.
Ouais, c'est il y a quelques temps déjà, mais bon, ça permet d'avoir un peu une idée, de voir par rapport à la production que c'est. Le film est disponible sur YouTube, il y a le making-of qui est aussi dispo sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises.
Toutes les archives sont sur la page de YouTube de Guillaume Pierret. Il y a tous nos courts-métrages, tous nos making-of. Les making-of sont presque plus intéressants que les courts-métrages, mais on a tout centralisé sur sa page à lui.
Ça vaut le coup d'œil. Je crois même que des fois, tu es derrière la caméra sur le making-of, parce que sur une scène où tu as un cascadeur qui plonge avec une voiture dans l'eau, mec qui a la bouteille d'oxygène avec lui dans la voiture et qui dit, ah, ça te fait marrer Rémi, tu veux que je crève, c'est ça?
C'est bien possible. sur le tournage de, c'est l'un des courts-métrages qu'on a du coup abandonné alors qu'on avait poussé un cascadeur à, enfin poussé un cascadeur, on avait demandé à un cascadeur de réaliser une cascade où il y avait un tremplin et une voiture qui plonge dans l'eau, et les cascades mécaniques justement où t'as une avec l'eau, c'est très compliqué, c'est très dangereux, c'est très technique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu envie de le faire. Et j'étais derrière la caméra parce qu'on manquait de cadreur. Donc, on a dit, bah tiens, il faut une caméra, je vais me mettre là.
Ouais, c'est l'époque où on fait un peu tout en même temps.
Ah ouais, complètement. Il n'y a pas de producteur qui arrive en costume, en cigare et qui dit, il est où mon siège?
Bien sûr.
Pour métrage, ça n'existe pas. Tu tires les câbles, tu ranges les chaises et tu fais comme tout le monde.
Ouais, normal. Donc, du coup, maintenant, tu as un cigare, tu es assis sur une chaise.
Ouais, exactement. Tu vois, donc, non, c'est toujours pas, mais en fait, j'adore la fabrication.
Okay.
Donc, quand je suis sur les tournages, après chacun connaît
chacun
son métier.
Son rôle, ouais, bien sûr.
Je veux surtout pas être dans les pattes des vrais techniciens.
Bien sûr.
Mais j'aime pas trop rester les bras croisés, quoi.
Et alors justement, donc vous arrivez à Paris, vous avez ce court-métrage là que vous commencez à présenter à différentes boîtes de prod. Combien de temps se passe entre ce moment-là et le début de la création de Balles Perdues et donc de votre premier long métrage?
7 ans en tout.
Oh, wow.
Quand on arrive à Paris, on est en 2011 à peu près, on s'installe, on finit le court-métrage. Le court-métrage a un vrai succès et grâce à l'autre aussi boîte de production, on a pu se présenter en festival, on a pu faire vivre le court-métrage.
Il me semble qu'il a eu pas mal de prix quand
même.
Ouais,
on a eu une soixantaine de sélections et on avait eu 11 prix dans différents festivals parce que un court-métrage avec des scènes d'action, c'est rare. Donc forcément, tu te démarques un petit peu. Et nous, on s'est dit, bah, ça y est, c'est parti. Regarde, on sait faire de l'action. Et du coup, tu prends ton petit court-métrage, tu prends ton idée de long-métrage et tu vas voir des producteurs. Moi, je voulais être producteur. Mais du coup, quand tu es un jeune producteur, tu vas voir d'autres producteurs seniors pour qu'ensuite, on puisse accéder à sa sainteté, le distributeur, pour qu'il puisse considérer ton film. Et alors là, ça a duré effectivement à peu près 7 ans.
Ok, donc ça veut dire que vous avez trouvé, c'est avec Nolita, c'est ça, que vous êtes associé sur Balles Perdues?
Alors, le mécanisme de Balles Perdues, ça ne s'est pas fait comme ça. Pour tout raconter, en gros, entre la sortie de Matriarche et les démarches pour Balles Perdues 1, c'est ça, entre 6 et 7 ans.
Okay.
D'abord, tu vas tout seul en essayant de rencontrer des producteurs. Nolita avait été des gens que j'avais approchés quelques années auparavant avec un projet de film complètement surréaliste. Et ils avaient été parmi les seuls à être extrêmement élégants dans leurs réponses, hyper respectueux en disant « Écoute, nous, on ne fait pas ce genre de film-là, on ne saurait pas t'aider là-dessus. Mais par contre, si tu veux un coup de main pour atteindre telle ou telle personne, alors qu'on ne se connaissait pas. » Et j'avais trouvé ça hyper nouveau pour moi dans les gens que j'avais rencontrés. Sans dire que tous les autres sont des oufs, hein, mais quand même, ils avaient été hyper... des gens bien. Et quand moi, ensuite, j'arrive à atteindre Netflix, donc Atteinte Saramé, avec le scénario de Balles perdues qu'on a développé Guillaume et l'écriture et Alban Lenoir aussi, l'acteur principal qui a été très très impliqué dans tout ce processus. On rencontre Netflix. Netflix me dit c'est pas mal ton truc. Et ça a pris quelques mois pour lui montrer qu'on était capable de le faire. Et au moment où elle me dit ok, c'est bon, par contre, il faut tourner dans tant de temps, dans 5 mois, puisque il y avait la disponibilité des comédiens, il y avait plein de paramètres qui faisaient que c'est pas quand vous voulez, c'est maintenant, les gars. Je retourne voir Nolita en disant j'ai créé InoxyFilm, mais je suis tout seul avec mon Mac et mon iPhone, ça suffit pas pour créer un. Et puis ils m'ont dit bah, viens, on le fait ensemble. Avec Versus, la boîte de production en Belgique aussi, j'ai trouvé des partenaires vraiment de qualité qui font pas du tout ce genre de film, qui ont l'expérience du long métrage. Donc moi, c'est là où t'as de la chance d'avoir des bons partenaires. T'arrives avec toute ton humilité et t'arrives avec le couteau entre les dents pour travailler et faire ton film parce que tu te dis putain c'est maintenant. Et comme personne ne fait de film d'action dans mon cercle de producteurs, que ce soit Versus Production ou Nolita, bah ils m'ont laissé faire. Et moi, je leur ai dit, mais en fait, je sais comment on va faire. On sait comment on va faire. Avec Guillaume, avec les cascadeurs.
Oui, toi, tu arrives avec l'expertise, en fait, action. Et eux, ils ont l'expertise long métrage qu'ils ont déjà produit. Donc, du coup, ensemble, vous allez vous compléter magnifiquement bien.
Ouais, exactement. Après, j'enlèverai expertise action de mon côté, puisque quand tu fais du court métrage et des scènes d'action en court métrage, tu es quand même très loin de la réalité. Tu te dis, ça fonctionne. Mais quand même, c'est pas comme ça qu'on soit une chorégraphie, un découpage, un réglage, une répétition, et ainsi de suite, une préparation sur les moteurs. Et donc, j'ai appris en fabriquant Balles perdues 1 parce que j'avais des super partenaires.
Ouais, tu dois te rendre compte maintenant, quand tu bosses sur ces films-là, que ce que vous avez fait avant, des fois, vous avez fait vraiment des trucs de dingue et que c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Quoi.
Bah, en fait, tu te rends compte que finalement, c'est comme ça qu'on fait, mais avec... un peu plus de
préparation.
Avec un peu plus de personnes. T'es pas tout seul à faire la régie, l'éclairage, le clap, tu vois, donc la doublure. Et quand tu comprends que chacun a son poste vraiment prédéfini, le plus difficile, c'est d'arriver à coordonner tout le monde. Mais une fois que tu arrives à le faire, bah, ça donne des films comme Balles perdues. Donc c'était une super expérience de passer du court au long.
Avec toutes ces expériences de court-métrage, ça a été quoi le plus challengeant pour toi quand t'es arrivé sur Balles perdues, quand vous avez enfin eu le go? Peut-être que c'est même avant le go, en fait, le plus challengeant, ça a été quoi?
En fait, on s'est aperçu que ce qu'on faisait en court-métrage et ce qu'on faisait sur Balles perdues, c'était exactement la même chose. On se pose les mêmes questions, on s'adresse aux mêmes personnes, on prépare de la même façon, mais avec finalement plus de confort, plus de temps et plus de gens. Finalement, on n'a pas découvert grand-chose entre le court-métrage et le long-métrage. La vraie différence, évidemment, au-delà du nombre de personnes qui sont avec toi, c'est la durée de tournage. Un court-métrage se tourne en... Tu vois, Matriarche, toutes les scènes d'action, on les a tournées en 2 jours. Là, on a tourné Balles perdues en 38 jours. Et du coup, ça nous a donné une... Il faut tenir sur la longueur, parce que c'est des films où tu transpires un petit peu. Mais c'est là où, en fait, tu apprends l'endurance. C'est plutôt ça.
Sur Balles perdues et avec Netflix comme distributeur, comment tu as fait pour aller chercher les financements? C'est Netflix qui te les apporte en tant que distrib?
En fait, le financement d'un film en streaming est un tout petit peu plus simple qu'un film en cinéma. Moi, je ne vais pas détailler les choses, tout est marqué dans la plupart des bouquins qu'on a tous lus. Mais généralement, un diffuseur apporte une certaine somme d'argent et ensuite tu vas chercher les financements complémentaires. Généralement, ce sont du crédit d'impôt, du tax shelter, puisqu'on avait le groupe belge, et c'est comme ça qu'on a constitué notre plan de financement. Il n'y avait pas à l'époque les aides possibles via le CNC que tu obtiens avec les aides à la région, ce genre de choses-là. Donc, on a constitué une poche financière finalement assez simple.
D'ailleurs, vous l'avez retourné à 7, il me semble, Balles perdues. Enfin, vous êtes retourné dans la ville où vous aviez fait Matriarche pour certaines scènes, non? Il n'y a pas un.
Sur Balles perdues 1, oui, on a tourné Balles perdues 1 à 7. Là où tourné Matriarche 10 ans auparavant.
Donc, tu es retourné voir ceux avec qui tu avais négocié 10 ans avant. Tu leur as dit, bon, mais maintenant, les gars, je ne vais pas bloquer une rue, mais la ville entière.
Absolument. On a dit, bon, maintenant, on voudrait s'installer là. On voudrait prendre le quai, on voudrait prendre le pont. On va faire péter tel truc, parce qu'il ne faut pas se tromper. Quand tu arrives dans une ville pour tourner un film, la plupart des riverains, ça les gonfle un peu en vrai, parce que c'est des barrières, c'est des déviations, ils ont autre chose à faire que de te regarder faire un film. Il faut qu'ils aillent au travail, ils ont des enfants à les récupérer, enfin, la vie quotidienne des gens. Toi, t'arrives et tu bloques des rues. Donc, bloquer une rue le dimanche pour faire un court-métrage, c'est pas trop dérangeant. Bloquer tout un centre-ville pendant 15 jours,
c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire. Donc, mais ça a été un gros travail main dans la main avec la mairie de Sète sur Balperdure, c'est indéniable. Et la mairie de Marseillan aussi. C'est les deux villages, enfin les deux villes, pardon, les deux communes qui nous ont vraiment accueillis sur Balperdure.
Je ne sais pas si tu peux le dire, mais pour avoir une idée, sur Balperdure 1, c'était, grosso modo, c'était quoi le budget du film ?
On ne peut pas trop en parler généralement. Okay. C'est, en fait, on se dit souvent, les
films budgets, d'action sont...
Ouais, les films d'action coûtent cher et tout. Et nous, ça se sent quand même qu'on est des artisans. Ça se sent quand tu vois le film. Hein, parfois, ça ressemble vraiment à un vrai film français. Sur les décors, sur plein de choses.
Et déjà, à l'époque, à ce moment-là, pour toi, c'est quand même un changement. Tu passes de 18 000 euros de budget à...
Assez considérable.
C'est une belle évolution à gérer en tant que producteur.
Mais tu te retrouves avec les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, fois 50.
OK.
Mais tu te dis, on filme la même chose, mais avec plus de gens, plus de temps, plus d'enjeux, et ainsi de suite.
Incroyable. Ah ouais. Balperdue est sorti c'était en 2020, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, le 19 juin 2020, ouais.
Et il a été top 10 dans 21 pays. Je crois qu'il est resté une semaine au top 10 au Brésil. Il était top 10 aux États-Unis. Enfin bon, il a fait un carton plein. Je sais pas combien de vues au total il a généré sur Netflix, mais il me semble que les chiffres sont assez conséquents. Comment ça se passe la suite? Les négociations sont tout de suite plus faciles. Il y a un échange.
Si je dois parler de changement, une fois que le succès de Balperdue 1 a été constaté. Ce qui a changé, c'est que les gens répondaient au téléphone quand j'appelais maintenant. C'est le vrai changement que j'ai vu, c'est ça. En termes de chiffres de l'exploitation, puis à 28 jours, on avait atteint à l'époque 37 millions de comptes visionnés.
Wow.
Donc pour nous, en fait, c'est des sommes qui sont totalement impalpables. Là, quand tu vois un cinéma plein et que c'est plein tout le temps, qu'il y a la queue devant et que tu t'es obligé de réserver ta place 3 jours plus tard, c'est palpable. Là, les gens sont chez eux, sur leur téléphone, sur leur tablette. Donc, c'est un chiffre qui est stratosphérique et que tu n'arrives pas à vraiment matérialiser.
Ouais, surtout que tu peux te dire 37 millions de comptes, en réalité, c'est beaucoup plus de gens parce que...
Exactement,
en
c'est
général,
ce qu'ils ont dit. Ouais, complètement. Il faut multiplier par le nombre de profils et le nombre de personnes devant l'écran. Parce qu'un compte visionné, peut-être qu'ils sont 10 derrière l'écran, peut-être qu'il est tout seul, on ne sait pas, en fait. Donc, et c'était assez... Pour nous, c'était colossal. Et Netflix, c'était... Bah, comme nous, très heureux de ce score, enfin de cette performance.
On doit pas se rendre, enfin c'est ça, c'est on se rend pas compte en fait. Ça doit être, tu dois même pas réaliser en fait. On te dit le chiffre, tu dis ok, bon.
Ouais, après t'es content.
Ouais,
tu
ouais.
Te dis, tu fais le film, tu fais des films d'action, donc des films de divertissement, mais quand tu fais des films tout court, t'as envie de que ça intéresse et que qu'il y a un maximum de personnes qui le regardent, parce que t'as fait ça dans le but de partager quelque chose. Plus tu le partages avec, si tu le partages avec un maximum de personnes, c'est totalement
c'est mieux,
gratifiant. Ouais.
Bien sûr.
Ah ouais, bien sûr.
Et alors du coup, comment ça s'est passé? Une fois que c'est sorti, les chiffres sont bons, tout se passe bien. J'imagine qu'il se passe quelques mois derrière entre l'euphorie et puis les appels que tu as dû recevoir à droite à gauche.
Ce qui change, c'est que comme on n'a pas fait de formation de cinéma, comme c'était un rêve presque inatteignable pour nous de vivre de notre passion et de fabriquer des films. Quand tu fais ton premier, la manière dont moi je l'ai vécu, en tout cas, parce que finalement, c'est hyper contradictoire, j'ai presque mal vécu la sortie du 1 ou ce qui se passait juste avant, puisque je me suis dit, mais peut-être que c'est fini après, peut-être que c'est le dernier. Et dans ma tête, j'ai toujours eu ce comportement de me dire, si tu fais un mauvais film, ce sera disqualifiant. Si tu ne t'appliques pas assez, tu n'auras plus le droit de rester là. Tu n'auras plus le droit de faire de film. Donc, avant que Balperdue ne sorte, c'était assez particulier. J'étais pas confiant, mais j'étais fier de ce qu'on avait fait. Je regrettais rien. Mais tu te dis, mais comment le monde, enfin, comment les gens vont percevoir et accueillir le film? Quand ça a été aussi positif, la manière dont, pour répondre à ta question, la manière dont j'ai géré la sortie, c'est que je me suis dit, ouf, j'ai peut-être le droit d'en faire un deuxième. Et c'est exactement. Et du coup, je me suis réjoui à ce moment-là.
Et c'est la. Maintenant, c'est la pression, justement, ce que tu me disais un petit peu.
Ouais, là, on sort la suite. Donc, la plupart des gens te disent, attention, les suites, c'est toujours très compliqué. Le dos est souvent moins bien, et ainsi de suite. Tu vois, donc, j'étais là, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai préféré Terminator 2 au 1, par exemple, même si ce n'est pas complètement la suite, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce raisonnement-là. Et surtout, Netflix nous a fait confiance et nous a dit, c'est quoi la suite de l'histoire? Comment vous voyez les choses? Et nous, on a pu dire, écoutez, on a pu prouver que c'est possible de faire un film d'action crédible avec un budget comme ça. Venez, on pousse le curseur un peu plus loin. Bien on sûr. Va plus loin dans les scènes d'action. On a une histoire mieux tenue. Nous aussi, on a fait énormément d'erreurs tout au long du processus de création, que ce soit en préparation, en tournage et en post-production. Et on s'est dit, on a hâte de remettre le couvert en ayant appris de nos erreurs pour faire un meilleur film.
Donc ouais, il y a une maturité un petit peu grâce au premier film qui te permet d'aller sur le deuxième plus
totalement.
Confiant.
Ouais, totalement. À chaque fois, on se remet des plus gros problèmes. Donc, tu repousses finalement. En fait, tu n'es jamais dans le confort puisqu'on essaye, comme à chaque court-métrage, de se dire le prochain doit être vraiment meilleur que le précédent.
Okay.
Donc, on a gardé ça en tête et on a fait Balles perdues 2 avec cette même motivation. On ne s'est jamais dit en allant sur Balles perdues 2, façon tranquille. Balles perdues 1, ça a cartonné. Là, c'est facile. Pas du tout. On s'est dit, alors là, mon pote, on n'a plus d'excuses. Là, il n'y a plus de « c'était leur premier film », pour un premier film d'action français, c'est pas mal, pour le budget que vous avez, c'est quand même bien. Il n'y a plus ça. Là, il y a « ok, alors maintenant que vous nous avez montré ce que vous savez faire, voyons voir. »
Ouais, là, vous avez vraiment toutes les cartes dans les mains. Et
vous n'avez plus d'excuses, plus de raisons de… Donc, voilà.
Okay.
Donc, la pression, oui et non, enfin… j'espère que ce sera bien accueilli. Je suis confiant parce que je suis très fier du film et on est hyper exigeant avec nous-mêmes. Donc, j'espère que les gens passeront un aussi bon moment, voire mieux que sur Balles perdues.
Et pour rentrer un peu dans le vif de ce qui s'est passé, c'est quoi le délai à peu près le film, le premier sort, ça fonctionne? Il se passe quoi? Il se passe 6 mois pour que Netflix revienne te voir et te dise « Bon, mais en fait, ça a bien cartonné, on veut la suite. »
Alors ce qui est assez chouette, c'est que la manière dont on a fait Balles perdues 1, Sarah May, donc la directrice des acquisitions à cette époque et qui est toujours là, évidemment, a pris un vrai risque. Elle a eu un vrai comportement audacieux de se dire « Je vais miser sur ces mecs-là. Je vais leur faire confiance. » Donc, quand on sort Balles perdues et que c'est un succès qu'on partage. Et pour faire Balles perdues 2, ils ne sont pas revenus, ils ne nous ont pas rappelé 6 mois plus tard. Mmh. Balles perdues 1 sort et il y a un vrai succès. Elle nous regarde droit dans les yeux, elle fait « Bon, les gars, on y retourne. »
Ouais, direct.
Et ouais, c'était trop bien, on y retourne. Et nous, on est là, bah ouais, carrément. Donc, évidemment, tout le monde se tourne vers Guillaume. Bon, il va falloir ressortir les stylos et on y retourne.
Il avait déjà commencé à écrire un petit peu.
On a une fin ouverte dans Balles perdues 1, il avait quand même quelques idées. Nous, on savait ce qu'on avait un peu envie de raconter. Mais... sans aucune certitude. On n'avait aucune certitude qu'on allait faire le 2. Mais on s'était laissé un peu une porte ouverte. Maintenant qu'on nous dit, allez les gars, c'est maintenant, mais c'est maintenant. Hein. Donc, on s'est remis au travail.
Ouais, ok. Et du coup, c'était une évidence de rebosser direct avec Netflix parce qu'ils vous ont fait confiance sur le premier et du coup, t'y vas. Ou grâce à ce film-là, vous avez aussi été approché par d'autres distribs en cinéma d'action. On en parlait avec Mélissa sur le podcast.
Ouais.
En France, on n'a pas beaucoup de prod, on n'a pas beaucoup d'acteurs qui sont sur ce créneau-là.
C'est vrai.
Donc, j'imagine que toi, ça a dû aussi sonner.
Là où c'est évident, c'est que est-ce que Balles perdues aurait eu le même succès en salle qu'il a eu sur la plateforme? On n'est pas sûr de ça. Tu peux tout de suite te dire non, je pense pas, parce qu'on n'aurait pas eu le même impact mondial. Je pense qu'il se serait défendu, et encore, j'en sais rien, j'espère, évidemment, mais l'évidence de retravailler à Netflix, elle est tout de suite, puisqu'on a eu une vraie liberté d'action, et elles nous écoutent. Du coup, si elles ne comprennent pas, ou si elles ne sont pas d'accord, on discute. Il n'y a pas des phrases qu'on a entendues pendant ces 7 ans avant, il faut mettre l'argent là où il faut, les films d'action, c'est compliqué, j'ai vraiment entendu des raisonnements complètement claqués, où tu dis, mais sans blague. Tu vois, donc rebosser avec Netflix, c'était une évidence. C'est un plaisir. Ça fait très suceur, mais je suis très sincère quand je dis ça. C'est un vrai plaisir de bosser avec des gens qui t'écoutent et qui discutent et qui comprennent et qui se mettent dans une position non pas d'ultime payeur, mais d'accompagnant. Genre, OK, on a les moyens, et je ne parle pas que d'argent, de mettre en place une suite. On se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que les gens attendent? Qu'est-ce qu'on a envie de voir? Qu'est-ce qui fait que Balles perdues 2 sera différent de Balles perdues 1, tout en gardant une cohérence d'histoire et ainsi de suite. Donc, oui, c'était évident de continuer avec Netflix et c'est un vrai plaisir en tout cas.
Ok. Et puis c'est vrai que, comme tu dis, il y a eu un impact derrière mondial sur la diffusion.
Ouais, bien sûr.
Que une diffusion en salle aura beaucoup de mal à reproduire parce que du jour au lendemain, t'es diffusé dans tous les pays du monde quasiment.
Bien sûr.
Donc forcément, vous avez fait une petite tournée où il y a pas eu d'avant-première ou un truc comme
alors,
ça.
Alors,
ou...
on sortait du Covid, donc malheureusement, on n'a pas pu partager le film comme on peut le faire dans une certaine tradition en France avec un accompagnement avec des avant-premières. Donc ça, c'était un peu frustrant. Du coup, on a vu quelque chose d'assez impalpable, impersonnel à travers les réseaux sociaux, à travers les coups de fil et ce que nous disaient les gens. Mais Balle perdue 2, ça va changer puisqu'il y aura deux avant-premières publiques.
Voilà, tu vas chercher un peu ce que tu n'as pas eu sur le premier, non ?
Exactement. On fait une première projection publique à Montpellier, qui est de la ville et donc la région qui a accueilli le début de la saga Balle perdue, Balle perdue 1 et Balle perdue 2, pour le partager aux Montpellierains en premier.
Génial.
Le 26 octobre prochain, dans un peu moins de 15 jours. Et ensuite, on fait une avant-première parisienne où justement, tu dévoiles ton bébé dans des conditions de salle, alors que c'est un film de streaming. Tu invites les gens de la profession, tu invites l'équipe technique, tu invites les amis, la famille, et puis tu dis, allez, à dans une heure et demie. Hein, donc, c'est différent. Et honnêtement, c'est une immense fierté de travailler, de continuer à travailler avec Netflix. Je ne désespère pas de pouvoir faire ce genre de film-là au cinéma. Aussi pour qu'on redonne envie aux gens de faire confiance au cinéma d'action français, comme on a pu le faire il y a 20, 30 ou 40 ans.
Ouais, bien sûr. Et c'est ce que tu me disais au tout début, avant qu'on démarre l'interview, c'est que tu bosses aussi sur d'autres projets maintenant, parce que là, c'est du coup ton deuxième long-métrage avec Guillaume,
ouais,
avec qui tu bosses depuis toujours. Et donc, du coup, là, tu commences à bosser sur d'autres projets, à t'ouvrir à d'autres réals.
Ouais,
comment ça se passe, ça ?
Ben, quand t'es producteur de Guillaume Pierret, mais que t'as aussi envie de raconter d'autres histoires, et puis Guillaume, il va pas écrire 5 films par an, hein, donc j'aimerais bien, mais... voilà, ça va être. Enfin, tu peux lui demander, hein, mais je crois qu'il ne pourra pas. Du coup, tu t'es approché aussi par d'autres réalisateurs, d'autres univers, d'autres ambitions aussi que tout faire péter, même si on ne fait pas que ça avec Guillaume. Et à ce moment-là, j'ai pu rencontrer dans ce parcours-là plein de. J'allais dire plein de jeunes. Je ne suis pas un daron non plus, hein, mais plein de gens comme nous qui, à l'époque de MySpace ou YouTube ou Facebook, partageaient des courts-métrages qui ont énormément de talent. Et je me dis, c'est aujourd'hui mon rôle aussi de se dire, regarde, c'est peut-être son tour. En fait, si toi, tu l'encadres, on peut peut-être aller faire ça, ça, ça. Et puisque je commence à avoir petit à petit l'oreille de Netflix, des distributeurs et une crédibilité de producteur, c'est des terrains que j'ai envie d'explorer. Là, le troisième film, Inoxy, que je viens de produire, c'est Morgan Delibert, le chef-op de Balle perdue 1, Balle perdue 2, qui est un chef-op aussi sur... beaucoup d'autres productions en France, réalise son premier long métrage chez moi, avec moi, au sein d'Inoxy. Donc, c'était une expérience nouvelle avec quelqu'un en qui j'ai fait confiance, en qui j'ai confiance pour un univers totalement différent, une approche totalement différente.
Et on est encore dans l'action ou...
Ouais. Chez Inoxy, tu auras toujours un envie de récréation. C'est vraiment de récréation, de divertissement, sans dire qu'on fait des films de Gaulmont, hein, mais c'est quand même. Un endroit où j'ai envie qu'on s'amuse et qu'on se décomplexe. Tu vois, donc c'est un peu l'idée. Et Morgan est arrivé avec une idée hyper singulière, beaucoup moins récréative pour le coup. C'est un thriller d'action.
Okay.
Avec Alban Lenoir aussi, puisque en fait, on change pas d'où on vient. Hein. Donc quand on aime ce genre d'histoire, quand on aime ce genre de cinéma-là, on n'est pas si nombreux que ça. Et donc on a développé une histoire qu'eux-mêmes avaient écrite il y a très longtemps. Et on travaillera, enfin, on vient de terminer le tournage, on est en plein montage en ce moment. Le film sortira l'année prochaine sur Netflix.
Génial.
Voilà.
Ouais, c'est ça, t'as trouvé ton truc, enfin, t'as trouvé ton truc. Tu l'avais déjà, mais là, t'es lancé, quoi.
Ouais, l'idée, c'est petit à petit, chaque film doit montrer que quand tu verras le logo d'Inoxy, tu dis, ah, tiens, je vais voir un truc où normalement les gars se sont bien amusés.
Ça va bombarder, ouais.
Ouais, c'est l'idée un peu, tu vois. Donc, je ferai pas que des films 100% action, AKA, enfin, donc le film de Morgan qui s'appelle AKA. N'est pas un film d'action pure, mais il y aura toujours une dimension assez divertissante, visuelle, généreuse. Un peu comme le modèle d'EuropaCorp, qui a un peu été une vraie source d'inspiration pour moi où je me disais, putain, à chaque fois que je vois ce logo, je vais voir quelque chose qui me parle, quelque chose d'urbain, quelque chose de décomplexé, un peu à l'américaine, mais aussi très français. Ouais, c'était, en tout cas, à une certaine époque, ça incarnait tout ce que moi, j'avais envie de faire.
Ok. Alors justement, dans tes films, tu mets beaucoup en valeur les cascadeurs, puisque bah, c'est des films où bah, littéralement, ça tabasse et on y va. C'était la discussion qu'on avait avec Mélissa dans le podcast, où elle nous racontait que bah, c'était un de ses premiers rôles, dans le sens où elle n'est pas juste là pour faire une doublure ou se faire rentrer dans par une voiture, mais incarner un personnage. C'est quelque chose que tu fais beaucoup dans tes films. Tu t'essayes de mettre une place plus importante au cascadeur.
Alors, c'est pas moi qui peux décider ça, c'est le metteur en scène en premier lieu. Après, les cascadeurs et nous en tout cas, on a une vraie familiarité. Il y a plein de cascadeurs qui sont très heureux en tant que doublure, qui prennent les coups et qui prennent les risques pour l'acteur. Et d'autres cascadeurs qui en fait disent, mais en fait, on fait du jeu, de l'acting et tout, et on est capable de faire. On a aussi, nous, envie d'interpréter, pour éviter d'ailleurs de filmer les scènes d'action de dos, ce qui est souvent le cas. C'est pas une volonté particulière. Par contre, quand t'as des gens de talent qui s'arrachent dans ce qu'ils font, ouais, ça mérite en fait de laisser de l'espace d'expression. Donc Mélissa, quand elle cascade dans Balles perdues, mais elle interprète aussi un personnage secondaire, mais on voit le visage ou on voit les expressions, c'est quelque chose qui s'est fait absolument naturellement. Après, elle, de son côté, elle a continué. Il y a d'autres réalisateurs qui lui ont permis de faire ça. Et je pense qu'on n'est pas du tout les seuls à faire ça chez Inoxy. C'est des choses qui
sont une tendance de plus en plus.
Et tant mieux, bien sûr, ouais, complètement.
Et alors, sur ces films qui sont assez spectaculaires, j'imagine que tu dois avoir deux, trois anecdotes, un truc qui t'a marqué particulièrement sur soit Balles perdues 1, le 2, ou AKA, ou les courts-métrages. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement?
Il y a plein de choses qui m'ont marqué parce que j'étais sur le tournage autant que possible. J'ai pas envie de révéler les scènes d'action qui sont dans Balles perdues 2 parce qu'on s'est vraiment fait plaisir. On s'est fait plaisir avec le régleur cascade, avec les cascadeurs, avec l'équipe. Et en même temps, à chaque journée de cascade, il y a une sorte de discipline qui se met en place où presque les gens chuchotent avant la scène. C'est plutôt des souvenirs comme ça où... j'adore voir les gens se mettre en union, en symbiose autour des cascadeurs où justement l'équipe technique va les choyer un petit peu puisqu'on sait qu'ils vont prendre des risques, des vrais risques, même si tout est extrêmement encadré, autant que possible. La discipline qu'il y a le jour des scènes d'action, c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. Et j'ai le ventre noué, pas parce que je me dis on prend des risques, j'ai le ventre noué parce que, je sais pas, j'ai une sorte de transfert où je vois... Le courage, l'abnégation de ces gens-là et surtout l'union de tant de techniciens autour d'une scène d'action qu'on pourra certainement pas refaire parce qu'on n'est pas à Los Angeles avec 10 voitures doublures, les moyens de se dire bah, si on ne tourne pas aujourd'hui, on le fera dans une semaine. On n'est pas comme ça. Donc, tout le processus du one shot, presque, de se dire les répétitions, les réglages, les cadrages, tout en fait pour coordonner autant de personnes que nécessaire à travers une performance de cascadeur, c'est les moments que je préfère.
Ok.
Ouais, j'adore ça. Sur nos tournages, vraiment, j'adore ça.
Aujourd'hui, si quelqu'un nous écoute et aimerait réaliser des courts-métrages ou réalise déjà des courts-métrages et aimerait passer à la vitesse supérieure, ce serait quoi un petit peu les conseils que tu pourrais donner de ton expérience
pour... Je ne sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils, en tout cas, avec ma petite expérience. J'ai l'impression d'être encore un bébé producteur. J'ai fait deux films, il n'y en a qu'un qui est sorti pour l'instant, donc on verra ce qui va se passer et si je suis encore là dans quelques temps.
Ouais, c'est cool déjà d'avoir ton vécu.
Ce que je pourrais partager pour essayer de gagner du temps, ce que nous on n'avait pas, c'est une stratégie. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'avoir une stratégie, de se poser des questions de dans quel milieu on veut aller, quels sont les codes de ce milieu, comment on les apprend. Et surtout, comment on va se démarquer? Qu'est-ce qui fait que moi, on va m'écouter davantage qu'un autre? Qu'est-ce que j'ai, moi, à défendre davantage qu'un autre? Pourquoi moi, plus qu'un autre? Donc, avoir une stratégie, savoir comment y arriver et surtout être singulier.
Et là, tu parles plus du côté réel, c'est sur l'ensemble, quoi.
Ouais. Okay. Que ce soit producteur, acteur, réalisateur, scénariste, tous les gens qui vont être à l'initiative des projets, se poser la question, en fait, de pourquoi mon projet est plus intéressant qu'un autre? En essayant de se mettre à la place de celui qui va lire, celui qui va le financer, celui qui va l'interpréter, enfin ce genre de choses-là. Et quand je dis une stratégie, c'est pas être calculateur, c'est plutôt de bien comprendre où est-ce qu'on met les pieds et d'être singulier, en fait. De ne pas chercher à copier, à faire comme, ou parce que c'est la tendance en ce moment de faire comme les autres et d'être singulier, en fait.
OK.
Ouais.
Du coup, avec Guillaume, vous connaissez depuis toujours,
quasiment. Ah oui, depuis nos un an.
Depuis vos un an, ouais.
Ça date un peu maintenant.
Donc, quasiment depuis toujours. C'est une chance énorme de pouvoir bosser avec son meilleur ami dans un domaine qui nous passionne, je pense.
Ouais.
Puis comme tu me le disais, voilà, vous n'avez pas besoin de parler, vous regardez, c'est direct.
Ouais.
Je sais pas, il n'y a pas un côté plus difficile aussi d'être tout le temps sur les mêmes projets, du coup d'avoir peut-être l'impression de répéter le truc, ou c'est... Oh, non,
c'est un vrai kiff. En fait, comme on aime faire ce qu'on fait, bah on le fait.
Ouais, il n'y a pas
donc,
de débat.
Non, il n'y a pas de... La connexion qu'on a fait qu'on est capable à deux d'être inarrêtable. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en vrai, tu pourras nous dire ce que tu veux, mec, laisse faire. Tu vois, donc ça, c'est très réconfortant. Ça donne beaucoup de force de travailler comme ça. Mais non, on n'est pas blasé. En fait, comme on a toujours envie de faire mieux qu'avant et qu'on a gardé cette mécanique-là des courts-métrages, dans quelques années, on filmera des vaisseaux dans l'espace. Tu vois.
Magnifique.
C'est l'idée, quoi.
Ouais. Et du coup, c'est une force, en fait, de se connaître autant et de continuer à bosser ensemble depuis le début.
Bah, je dirais que oui, bien projets. Sûr. Ouais, totalement, ouais. Peut-être que lui dira le contraire. Il dira, vas-y, encore un film avec Jérémy, putain. Tout. Parce que du coup, on est extrêmement familiers les deux.
Ouais.
Mais ouais, bien sûr, c'est une force.
J'adore. Lui, tu sais, s'il a d'autres projets, il a été approché par d'autres producteurs, peut-être, pour faire d'autres trucs. Ouais.
Oui, bien sûr. Et plein de gens lui disent, tu vas voir, les États-Unis, Hollywood vont t'appeler et tout. Donc,
ah ouais?
Ouais, bah, c'est sûr. Donc,
et c'est la suite logique.
Peut-être, oui. Et puis peut-être qu'un jour, un producteur va lui dire Jerry Bruckheimer, tu vois, qui est aussi une sorte d'exemple, entre guillemets, dans son parcours, dans ce qu'il a fait pour moi en tant que producteur. Dit, bah, peut-être que Jerry Bruckheimer va t'appeler et bah, il va bosser son anglais et peut-être qu'il va y aller, tu vois.
Donc, il va bosser son anglais.
Mais, non, mais en tout cas, pour l'instant, Balle perdue est sortie, paf, on s'est mis au travail sur Balle perdue 2.
Il n'y a pas le temps, en fait.
Il travaille, donc ouais, il est un peu en mode j'ai pas le temps, laissez-moi, là je travaille. Donc il y a un peu de ça. Donc peut-être qu'un jour ça arrivera. Ouais.
Donc là, le Balle perdue 2, il sort
le 10 novembre.
Il sort le 10 novembre. C'est quoi là les prochaines étapes? C'est dans 3 semaines à peu près, 4 semaines?
Ouais,
c'est quoi un peu là les prochaines étapes avant la sortie?
Bah, aujourd'hui, c'était la diffusion du premier teaser de 40 secondes. Donc on divulgue les premières.
Premières images.
Les premières images, les premières affiches teaser. Toute l'équipe Netflix, en fait, a mis en place une stratégie marketing qui, nous, enfin, c'était complètement fou, en fait. On s'est dit, ah ouais, putain, vous aimez le film, et c'est chouette, en fait, parce que, franchement, ils se sont butés à faire des affiches tellement cool, des montages tellement cool. Il y a une équipe chez Netflix de gens qui aiment ce qu'ils font.
C'est eux qui bossent sur les montages des teasers en interne ?
Ouais, bien sûr.
Okay.
Et puis... Après, ils font appel à des professionnels là-dedans.
Oui,
mais
j'imagine bien.
Mais, oui, c'est eux
pas
qui drivent ça.
Le stagiaire marketing de Netflix.
Non, bien sûr. C'est eux qui drivent ça et ils sont très partageurs avec nous.
Okay.
C'est des gens qui nous disent, qu'est-ce que vous en pensez? Alors évidemment, ils ont leur process. À un moment donné, tu ne vas pas retourner à la table parce que toi, tu n'aimes pas. Mais je sais pas, ils ont à chaque fois, franchement, ça fait encore très suceur, mais à chaque fois, ils tapent dans le mille, en fait. Nous, ça nous plaît. On dit, OK, un peu comme ça, plus comme ça. Et puis, ça se fait en travail d'équipe, en vrai.
J'ai la curiosité de savoir à quel point ils ont leur mot à dire sur justement le film en tant que... Parce que du coup, ils sont coproducteurs, non? Sur le...
En fait,
ils sont uniquement distributeurs, comment ça se passe?
Netflix, en fait, c'est un film Netflix où ils sont... c'est comme un diffuseur, un distributeur.
Okay.
La production, c'est nous. C'est nous qui fabriquons
vraiment,
le film, mais pour le compte de Netflix.
OK.
Voilà, donc, ce sont des diffuseurs.
OK, donc ils ont moins leur mot à dire, on va dire, sur le film, le
alors,
montage final.
Quand même, ils sont... alors, ils ne sont pas interventionnistes.
OK.
Par contre, ils sont là à chaque étape. Ils regardent les montages, on les valide ensemble. Et si jamais ils disent, on n'aime pas ça, nous, on ne se dit pas, c'est nous qui décidons. On dit, bon, alors, pourquoi? Et on essaie de tous trouver une logique de qu'est-ce qui est le meilleur pour le film. Et ça se fait comme ça. Donc, ils sont là à chaque étape, quand même.
J'imagine qu'en plus... avec Netflix, avec toute la data qu'ils doivent avoir sur le nombre d'heures visionnées, à quel moment les gens skippent une scène, quittent le film ou autre, il doit y avoir un côté, je sais pas, c'est vraiment j'imagine qu'il doit y avoir un côté de data où ils te disent, bah, en fait, on a remarqué que 80% des gens, ils skippent ce genre de truc ou ils vont regarder plus ça.
Alors oui, eux, ils ont des moyens de mesure qui sont hyper précis. Et ça leur permet justement de pouvoir répondre à ce que veut leur audience et okay. ce que recherchent les abonnés de Netflix. Maintenant, nous, ça ne nous crée pas de contraintes particulières quand on fait un film.
Oui, ils sont pas venus te voir en disant, bon, alors pour Balle perdue 2, il faut absolument qu'il y ait une scène comme ça.
Ah non, pas du tout. Mais... c'est d'abord la qualité de... En fait, ils sont plutôt, est-ce que l'histoire qu'on raconte est intéressante ?
Bien sûr.
Voilà.
Quand vous faites justement des visionnages, est-ce qu'il y a ce truc-là de se dire... Bah ça, en fait, ça va être un moyen de justifier peut-être un point de vue en disant ça, on pense qu'il faudrait peut-être le remonter différemment parce que...
Alors, ils font... quand on leur montre un premier cut de montage, déjà, ouais. Nous, la tradition, on a fait deux films ensemble pour l'instant, mais on les laisse regarder le film entre elles et ensuite, on en parle tout de suite après, on les attend après le visionnage.
Ouais.
Et elles nous donnent leur ressenti à chaud et ensuite on rentre un peu dans le détail. Et elles nous font des retours sur des points de montage précis. Ça j'aime bien, ça j'aime pas. Elles disent pourquoi, mais jamais avec l'argument de data. Okay. Ça c'est pas pour le dedans, pas du tout. Okay. C'est d'abord, est-ce que le film vaut la peine d'être raconté ? Est-ce D'accord. que ça marche ? Est-ce que ça, c'est intéressant ?
On reste sur un truc purement artistique.
Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y a pas, okay. pas du tout de blocage, tu vois, ou de frontières faites. Basé sur quelconque algorithme, c'est pas vrai.
Ouais, bien sûr. Oh, ouais, j'ai lu ça nulle part, mais ouais, c'est vrai que je me posais la question. D'un coup, j'ai pensé à ça, je me suis dit, en vrai, ils doivent avoir une telle quantité de data, ça doit être assez incroyable d'avoir accès à ces chiffres.
Bien sûr, oui, complètement.
De savoir que, peut-être, je sais pas s'ils te le disent après à toi pour ton film précisément, ils te disent, on sait que les gens ont regardé en moyenne tant de pourcents du film.
Sont capables de le mesurer. Après, ils sont devenus de moins en moins opaques là-dessus, puisqu'ils ont mis en place des systèmes de mesure de visionnage qu'ils ont rendu public au nombre d'heures visionnées. Et ça crée des classements où tu dis, c'est pas juste des gens qui ont cliqué, c'est des gens qui ont regardé le film.
Ouais, qui a mis ce clic sur la homepage.
Ouais, exactement. tu vois, si moi je clique 25 fois sur mon film, c'est pas 25 vues.
Eh merde.
C'est pas comme ça que ça marche.
Là, tu t'es rendu compte que t'avais perdu 4 heures.
Ouais, exactement. J'ai cliqué et tout. Je me suis dit, putain, une empanse de pouce pour rien. Et tout,
On arrive un peu au bout de cet épisode. Est-ce qu'il y aurait une ref culturelle ou quelqu'un qui t'a inspiré, un livre, un podcast, un film, un making-of ? Parce que tu me disais que vous êtes buté sur les making-of au tout début. Il y en a un que tu recommanderais particulièrement ?
Je ne sais pas. Honnêtement... mon film culte préféré, c'est Donnie Darko.
Okay.
C'est pas non plus un roller coaster d'action. Toute cette époque-là a été extrêmement riche de diversité, tant dans les films d'aventure. On a bouffé les Indiana Jones, les Star Wars, tous ces grands films généreux qui sont là pour te mettre dans une bulle où, quel que soit ce que tu vis, on te prend par la main, on éteint les lumières, on te raconte une histoire. Et parfois, on te fait ressentir des choses. Quand tu regardes un film avec, je ne sais pas si ça se dit comme ça, avec le cerveau reptilien, donc ce n'est pas basé sur l'intellect, mais sur le ressenti, comme quand tu fais un tour de manège, un tour de roller coaster, tu regardes le film avec ton bide, en fait. Et il y a plein de films qui sont comme ça. Alors, Donnie Darko, ce n'est pas aussi évident, mais je n'ai pas de film référence. Au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles productions qui arrivent, j'ai une mémoire de poisson rouge, ça n'écrase pas la précédente, mais je renouvelle un peu le stock. J'ai été très touché par la grandeur de Game of Thrones en termes de série. Tu vois, tout ça est très récréatif pour moi et qui flatte mon imaginaire. J'adore ça. Là, tout récemment, je l'ai vu un peu en retard puisque c'est sorti apparemment l'an dernier pendant qu'on tournait Balle perdue 2. C'est la série Foundation. Okay. J'ai vu sur Apple TV. Je me suis dit, putain, les mecs ont soigné. C'est intelligent, intelligible. Tu sens qu'il y a du soin dans... l'image, la musique, l'interprétation, l'écriture, c'était mortel. Donc, tout récemment, j'ai vu ça.
Okay.
C'était chouette.
Super.
Vraiment très bien.
Merci beaucoup, Rémi. Merci pour ton temps. Merci d'être venu jusqu'à nous à 3 semaines de la sortie du
Balle perdue
2.
Que
vous pourrez trouver sur Netflix du coup le 10 novembre.
Ouais.
Donc, allez le regarder. Et puis, on peut retrouver InoxyFilm sur le réseau. Je crois que vous avez un Instagram.
Exactement. Je ne vais pas donner l'adresse du bureau. Mais pour l'instant, on est sur Instagram qui on relaye un peu les informations. Et j'aimerais bien faire vivre un peu. Le côté off et tout ce qui se passe un peu derrière les développements et tout, on verra ça plus tard. En attendant, sur la page de Guillaume Piret sur YouTube, on retrouve.
Il y a pas mal de contenu.
Il y a pas mal de contenu, c'est chouette.
Il va y avoir justement un gros making-of sur Balle perdue 2 ?
Alors, puisqu'on va tourner Balle perdue 3 bientôt,
Magnifique.
On va tourner Mal perdu 3 bientôt. Ça a été annoncé, donc du coup, c'est pas un scoop. On a un pote, évidemment, qui est très fort dans le fait de se faire oublier et de filmer énormément les coulisses.
Magnifique.
Donc oui, on fera j'ai très envie de faire un documentaire, une sorte de making-of géant de comment on fabrique un film d'action municipal.
Voilà. Municipal.
Ouais, parce qu'on tourne à Sète, à Montpellier, à Marseillan, à Frontignan. C'est vraiment c'est des blockbusters municipaux. C'est pas de moi cette punchline, c'est Guillaume qui avait mis ça m'avait fait extrêmement rire.
Pas mal.
Il y a un côté très terre à terre et en même temps une ambition de. Voilà, c'est un petit tour de manège. Donc,
on y va. Ouais.
On fera j'ai très envie de raconter comment on a fait et comment on fait.
Ok, il y en aura un du coup pour le 2, mais surtout pour le 3.
Bah pour les trois. Parce qu'on a des images d'archives du 1, du 2, du 3, et j'ai envie de compiler cette saga autour d'un behind the scene, comme on dit. Assez cool à regarder. Ouais. Parce qu'on se marre beaucoup sur nos tournages aussi. Il faut que les gens voient ça. On transpire, on a peur, mais parfois on se marre aussi.
Ouais, c'est ce qu'on voit d'ailleurs même sur le premier court-métrage qui est super sérieux, assez dark, etc. Et dans le making-of, en fait, vous faites que vous marrer tout le long du
truc.
Ah ouais,
bien sûr, bien sûr.
C'est assez cool à regarder, quoi. Bon, merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Allez voir, du coup, tous ces making-of sur YouTube. Et puis surtout, allez voir Balles perdues sur Netflix le 10 novembre. Merci beaucoup, Rémi.
Merci
à très vite.
Temps, à
ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se donne rendez-vous dans 3 semaines, mais en attendant, retrouvez au générique ainsi que les vidéos des invités sur le compte Instagram et YouTube de l'ITShare. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcasts et Spotify, cela nous aide vraiment beaucoup. À très vite.